Ça reprend, c'est le moment.
Bah, quel moment?
Celui de la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Tiens, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on dit « normal » comme une sorte de ligne droite à suivre, une règle tacite, un moule dans lequel on devrait tous rentrer? Et si au fond, « normal », c'était juste une question d'habitude, un truc qu'on répète sans trop y penser? Et Norman, alors? Lui, c'est comme « normal », mais à une lettre près, c'est rien une lettre, une infime variation, un presque rien, et pourtant ça change tout. Suffisamment pour que certains lèvent un sourcil, d'autres s'inquiètent et quelques-uns s'émerveillent. Pourquoi ça nous dérange parfois les petits écarts, les pas de côté, pourquoi on a ce réflexe absurde de vouloir ranger les choses dans des cases bien alignées, bien carrées. Ce matin, ce midi, ce soir, selon l'heure où vous nous écoutez, on va parler de cette lettre qui fait toute la différence, de Norman, de son histoire, de ce spectacle qui bouscule et qui questionne, et surtout de celui qu'il a imaginé, mis en scène et chorégraphié. Clément Thirion, un artiste qui lui aussi aime les détours, les pas de danse en dehors des lignes. Et après s'être posé des questions sur la normalité, on va se poser une question qui reste d'actualité, moins joyeuse et en même temps, pourquoi pas en parler avec un peu de légèreté. C'est notre micro-trottoir de la semaine. C'est Adèle qui est sortie dans la rue avec son micro pour vous interroger sur la question de la fin de vie. Vous ne le voyez pas, mais je souris au copilote de cette émission pendant que je vous parle de ce micro-trottoir, puisque c'est toi, Maxime, qui monte ces bouts de parole des Mayennais, qui remanie la parole que l'on recueille, et c'est toi qui t'arraches les cheveux aussi un petit peu. Comment tu vas, Maxime?
Bonjour à tous, ça va super, et toi, Margot?
Eh bien, très bien, puisqu'en seconde partie d'émission, on échange avec Aurélie Germain, chargée de mobilisation pour la campagne Secret Toxique, qui porte le nom de son ONG, qui parcourt la France pour alerter sur les failles du système d'homologation des pesticides. Cette tournée s'arrête en Mayenne du 25 février au 13 mars avec plusieurs projections débats, des témoignages de victimes et de spécialistes. On découvrira ensemble ce que porte cette campagne et ses rendez-vous prévus en Mayenne. Et on terminera le sourire au coin des lèvres puisqu'aujourd'hui c'est le retour de la chronique juridique de Priscilla Mignard. Je sais, ça semble pas joyeux comme ça, mais je vous assure, il y a de quoi être surpris, saisi. On s'amourache chaque fois un peu plus de ce ton incisif et percutant. Bonjour Priscilla, comment est-ce que vous allez aujourd'hui?
Bonjour Margot. J'ai chaud là, ça fait des bulles là, comme dans une tempête tropicale ou alors c'est la ménopause.
Voilà, mieux dit de Riz, bienvenue dans votre émission quotidienne à la JT du local. Commence, je suis Margot et c'est encore une fois un peu sur scène que je vous emmène aujourd'hui. Le théâtre nous a très peu quittés cette semaine, tiens, et pourquoi pas, puisqu'on s'y sent bien. Allez, on démarre tout de suite avec l'entretien du jour. L'agité du local sur l'autre radio. Alors Clément Thirion, vous êtes à la fois metteur en scène et chorégraphe et aujourd'hui on a le plaisir donc d'échanger avec vous pour votre spectacle Norman, c'est comme normal à une lettre près, que l'on pourra donc découvrir le samedi 22 février à 17h sur la scène du Reflet à Saint-Berthevin dans le cadre du festival Monte dans le bus. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, avec plaisir.
Alors, vous nous invitez dans ce spectacle à réfléchir donc avec humour et poésie sur la norme, la différence et l'acceptation de soi. Pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter comment ce projet est né, ce qui vous a donné envie de raconter l'histoire de Norman?
Oui, alors j'avais lu en 2013, donc ça remonte déjà loin, un fait divers dans le journal sur... ça se passait en Allemagne, c'est un père qui a un jour décidé de porter des robes en solidarité avec son fils, qui voulait porter des robes pour aller à l'école. Et ça faisait écho à ma propre histoire, parce que moi, j'ai aimé porter des robes et des jupes quand j'étais enfant, et puis j'ai arrêté un jour. Je sais pas pourquoi, si c'était parce que j'étais lassé de le faire comme on est vite lassé enfant d'un jouet, ou bien si c'est parce que je sentais que ça pouvait générer de la gêne autour de moi. Et bon, aujourd'hui, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir réponse à cette question, mais j'ai voulu imaginer une histoire, une fiction basée sur ce fait divers que j'avais lu dans le journal. Parce que ça faisait un peu le contrepoint, même le contraire en fait, de ce qu'on exige aujourd'hui des petits garçons, hein, identifiés comme garçons, de ce qu'on attend d'eux. Et voilà, je trouvais ça amusant de raconter cette histoire-là aujourd'hui.
Marie-Henri signe le texte de ce spectacle. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble, peut-être pour intégrer à la fois ce texte et de la chorégraphie? Puisque c'est important de le préciser, il y a de la chorégraphie dans ce spectacle.
Tout à fait. D'abord, l'histoire que j'ai demandé d'écrire, ça a donné l'objet à un spectacle, on va dire, adulte, qui s'est créé en 2019, qui s'appelait Pink Boys and Old Ladies, donc sur le phénomène des Pink Boys, hein, qui sont ces personnes identifiées comme garçons et qui aiment bien porter du rose, et qui ne sont pas nécessairement, qui ne deviennent pas, enfin, ça n'a pas d'influence sur leur orientation sexuelle. On pense souvent que parce qu'on porte des robes ou qu'on aime le rose, ça a une influence sur l'orientation sexuelle, mais en fait pas. Et donc voilà, ça c'était le premier texte, et on a adapté en fait avec l'auteur Marie-Henri ce texte-là pour tous les publics dès 7 ans, et moi j'y ai intégré, c'est un peu moi qui ai fait un peu le travail d'édition au début, et j'y ai intégré des morceaux de musique et des chorégraphies que j'imaginais, et donc du coup c'est vraiment rentré dans ce qu'on appelle la dramaturgie, donc le fil de l'histoire. Il y a vraiment ces moments qui ne sont pas juste là pour faire de la déco, mais qui sont des vrais moments où on a un autre point de vue sur les personnages et un autre point de vue sur la narration.
Dans les quelques images que l'on peut voir du spectacle, on remarque une esthétique pop et tonique dans la mise en scène. Qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce que ça apporte à ce qui est raconté sur scène ?
Ben, tout est né à la base de la volonté de créer un décor pour la version adulte qui ressemble à mon paysage d'enfance. Et puis finalement, on a rejeté toutes les propositions réalistes et on est arrivé vers une sorte de paysage très abstrait d'un décor tout beige, une sorte d'infini beige, de sol beige et de fond beige, et des personnages qui finalement sont un peu dans ces tons beige et qui dénotent pas, sauf la robe de Norman dans la version adulte, qui est le seul événement, on va dire, coloré, qui virevolte dans ce décor tout beige. Et j'ai voulu recréer la même chose pour la version ici, Norman, qui est comme Norman à une lettre près, mais en accentuant un peu le cliché du genre, donc le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, entre guillemets, évidemment. Et donc, on évolue d'un paysage tout bleu jeans, le jeans étant quand même aussi un signe de la norme, hein, quand même assez fort, et donc tout bleu jeans, avec encore le seul événement rose, qui est la jupe de Norman. Mais ce paysage va évoluer au fur et à mesure du spectacle et ce qui est l'événement deviendra un non-événement, mais j'en dis pas plus, évidemment.
On vient de parler de l'esthétique pop, mais si on revient un peu sur le ton, il semblerait que ce sujet-là, vous le traitiez, vous avez à cœur de le traiter avec humour et légèreté. Comment est-ce que vous avez peut-être trouvé cet équilibre pour l'aborder avec profondeur, mais en restant aussi accessible pour les enfants, en l'occurrence ?
Effectivement, je voulais l'aborder avec humour et de l'humour un peu grinçant, c'est-à-dire que c'est pas juste un spectacle qui dit il faut accepter la différence. C'est pour moi c'est moralisateur et c'est pas la volonté parce que c'est bien facile d'accepter la différence, mais quand on est confronté au quotidien, au concret, de ce qu'est la violence, du rejet, ben c'est plus difficile. En fait, il y a plus de c'est une zone plus grise que ça. C'est pas tout noir ou tout blanc. Donc du coup, l'humour est assez grinçant et ça permet en fait de pas être dans un préchi-précha un peu gnangnan sur l'acceptation de la différence, mais plutôt se confronter à sa vraie violence, mais de manière effectivement légère, en fait. Il n'y a pas eu de compromis sur le texte, quand on a remanié le texte de la version adulte pour la version, entre guillemets, pour enfants. Il n'y a pas eu de moment où on s'est dit, on a enlevé, évidemment, certaines scènes ou des notions de, parce qu'il y avait quand même beaucoup dans la version adulte de relations à la grossièreté ou à, comment dire, la projection sexuelle des adultes sur la vie des enfants. Ça, on a enlevé, mais on n'a pas édulcoré du tout. Il y a encore des insultes dans la version pour enfants. On a encore cette violence-là et on n'a juste pas pris les enfants pour des débiles. Et on a gardé la même exigence au niveau du texte et de la forme contemporaine. Donc voilà, sans faire de différence entre... en tout cas, surtout pas prendre les enfants pour plus bêtes qu'ils et elles ne sont. Et puis ça marche, en fait.
Et justement, les enfants sont au cœur de cette histoire. Comment est-ce que les jeunes spectateurs réagissent à ce spectacle, à ce personnage ? Est-ce que vous voyez même une différence, peut-être, avec le regard que peuvent porter les adultes ?
Alors, on joue ce spectacle dans deux configurations. Une configuration, comme on dit, scolaire. On n'a que des groupes d'enfants qui viennent dans le cadre de l'école et où là, c'est vraiment, c'est parfois très chaud parce que les enfants réagissent très fort au spectacle et c'est voulu. On a envie de générer plein de sensations et d'émotions différentes. Donc, on passe du rire au cri de peur, à la joie, à l'émerveillement. Il y a vraiment toute une succession d'émotions qu'on laisse, enfin, on laisse la possibilité aux enfants de le vivre et les acteurs et les actrices. Ben voilà, bénéficie d'un texte qui est quand même super bon et ça permet en fait de raccrocher les enfants, de les rattraper quand ils partent dans un délire, quel qu'il soit. Et quand on joue en version tout public, comme on dit, donc ça c'est familial, c'est un mélange d'enfants, de parents. Et ben ce qui est super, c'est qu'en fait il y a plein de clins d'œil dans le spectacle aussi pour les parents. C'est vraiment un spectacle familial. Donc moi, ma volonté, c'était de faire, j'adore les Pixar par exemple, de faire une sorte de Pixar théâtral. de 45 minutes où en fait tout le monde y trouve son compte. Les enfants rigolent à certaines choses, parfois les adultes à d'autres. Et en fait tout le monde se rencontre, parfois communément ou parfois de manière dérythmée, mais sur des références et des clins d'œil qui leur sont adressés.
Justement, vous nous parlez de Pixar. Quelles ont peut-être été vos principales influences artistiques pour construire autant ce visuel que ce spectacle dans sa globalité ?
Disons que c'était plutôt, quand je parle de Pixar, c'est plutôt la manière dont les personnages sont très dessinés dans les Pixar, hein, que ce soit physiquement ou dans leur voix ou dans leur attitude. Il y a quelque chose de très croquant. Ils apparaissent, enfin, quand c'est bien fait, ils sont vraiment jouissifs parce qu'ils ont vraiment une identité très, très marquée, très forte tout de suite. Et c'était plutôt ce rapport à dessiner des personnages, dessiner des silhouettes. Qui m'a inspiré, et dans le spectacle on se joue, donc on n'est que trois interprètes, mais il y a beaucoup d'autres personnages, et donc on se joue évidemment de la question du travestissement, de mettre des perruques, de l'habillement en fait. Et donc c'est plutôt en ce sens-là que ça m'a inspiré, c'est de dessiner des personnages savoureux, quoi.
Vous êtes une compagnie belge, est-ce que vous remarquez une différence dans la manière de percevoir, de considérer ce sujet-là entre la France et la Belgique ?
Alors, je ne sais pas si c'est les sujets qui sont traités différemment en Belgique ou en France. Ça, j'aurais du mal à le dire parce que je ne connais peut-être pas assez bien non plus le territoire français pour me permettre une comparaison. Mais c'est plutôt effectivement dans le ton. On parle évidemment de l'humour belge ou du décalage ou de l'autodérision. Et effectivement, ça y joue beaucoup, mais il y a beaucoup de spectacles très sérieux aussi en Belgique. Mais je dirais que peut-être c'est dans une manière de considérer... les spectateurs et les spectatrices plutôt d'égal à égal. Je ressens parfois en France, mais c'est une généralité, donc vous m'excuserez, mais parfois je ressens effectivement que la scène, on va dire, est très intelligente et on vient au spectacle en essayant d'apprendre quelque chose. Et peut-être, en tout cas moi, mon rapport au spectacle, pour pas non plus faire d'autres généralités, c'est... de se reconnaître les uns les unes les autres, en fait, dans un rapport plus horizontal. Et moi, je ne prétends pas apprendre des choses aux gens, mais juste mettre en lumière certaines choses plutôt que d'autres.
Vous avez reçu plusieurs récompenses pour ce spectacle. Est-ce que ces distinctions vous permettent d'envisager la suite de votre carrière ou simplement même un futur projet avec sérénité ? Et je vous pose la question, puisqu'en France, aujourd'hui, la culture est remise en question, plutôt mise à mal. J'ai d'ailleurs aussi envie de vous demander si c'est aussi le cas en Belgique aujourd'hui.
Alors par rapport aux récompenses et aux distinctions, non, absolument pas. Ça n'apporte aucune sérénité, sinon un peu de reconnaissance et de baume au cœur. Mais la situation en Belgique n'est pas encore aussi pire qu'en France, mais ça risque d'arriver très bientôt. Là, le gouvernement qu'on doit essuyer est un gouvernement d'extrême droite. La situation n'est pas encore aussi pire, mais ça risque de le devenir très vite avec un possible premier ministre à l'époque qui a quand même affirmé qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de ministre de la culture et il s'en sortait très bien. Enfin, je veux dire, on est au niveau de la gouvernance dans des schémas qui sont vraiment très dangereux pour l'avenir de la culture et du secteur. Et on est évidemment très solidaires avec ce qui se passe en France, mais les conséquences sont directes pour nous aussi. Je veux dire, les coupes budgétaires, les premières personnes qui sont impactées sont les artistes internationaux, comme nous, qui coûtons plus cher, évidemment, parce qu'on doit venir de Belgique. Il y a les transports, il y a les logements. Et donc, on est les premiers à subir, en fait, quelque part, enfin, non, pas les premiers, mais on ressent très directement maintenant les conséquences de ces politiques.
Si on revient sur le spectacle Norman, c'est comme normal à une lettre près. Quel défi, peut-être, vous avez rencontré en mettant en scène ce spectacle-là ? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans la manière de le penser, de le travailler ?
Alors, c'est peut-être un peu bizarre ce que je veux dire, mais ça s'est assez bien passé. C'était relativement facile, aussi parce que j'avais mis en scène la version adulte deux ans avant. Donc, j'étais quand même imprégné de cette matière qui, en plus, l'idée du projet a germé en 2013. Et donc, en fait, ça s'est passé vraiment de manière très organique et très fluide, la création de cette nouvelle version pour enfants, dans le sens où on a eu quand même beaucoup de temps de travail pour un spectacle qui dure 45-50 minutes. Et donc, en fait, les difficultés sont été de pouvoir, représenter la violence, donc la violence homophobe ou transphobe, la pointer et la représenter sans la reproduire. Donc, et la grossophobie aussi. parce qu'il y a une question d'un autre personnage qui subit la grossophobie. Donc la difficulté a été plutôt celle-là, de se poser la question de comment nommer et montrer une chose sans recréer en fait la violence. Et ça, c'est un des défis majeurs de, je pense, tout artiste pour l'instant qui souhaite traiter de sujets de violence.
On vous découvrira sur scène donc le 22 février aux côtés d'Antoine Cogniaux, Déborah Marshall. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre collaboration avec ces deux interprètes ?
Bah, c'est une très chouette collaboration où j'ai quand même demandé aux interprètes de rentrer dans un code de jeu très particulier qui est quelque chose qui me définit et qui nécessite quand même pas mal de travail technique, on va dire, en tant qu'acteur et actrice. Dans le sens où il faut pouvoir gérer la chorégraphie, le corps, mais aussi je leur demande de dissocier, leur gestion du texte de, ce qu'ils interprètent. Donc ce sont des sortes de narrateurs et narratrices, mais qui en même temps sont les personnages. Donc du coup, parce que aussi le texte est écrit à la troisième personne constamment, il n'y a pas de jeu, c'est toujours il. Donc Norman, aujourd'hui, porte une robe. Et donc du coup, ça crée un effet de distanciation que j'ai demandé aux acteurs et aux actrices d'intégrer aussi dans leur manière de jouer. Donc je leur demande de jouer, alors surtout pas psychologique, et ça on en rigole entre nous, parce que dès que je leur dis « oulala, attention psychologique », on en rit. Mais c'est de trouver des moteurs de jeu dans le corps, dans le rythme, dans le texte, dans la langue, et non pas dans leur capacité à avoir une émotion. Voilà.
Et donc, je le rappelle pour l'auditeur de l'autre radio qui nous rejoint, on pourra vous découvrir avec le spectacle Norman, c'est comme Norman a une lettre prêt à 17h au Reflet à Saint-Berthevin. Ce sera le 22 février dans le cadre du festival Monte dans le bus. Le spectacle est d'une durée d'environ 40 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il y a une rencontre avec le public.
Oui, on sera très content et contente de discuter avec le public, de pouvoir échanger après la présentation.
En tout cas, merci beaucoup Clément de nous avoir accordé ce temps, je le redis une toute dernière fois, pour vous découvrir sur la scène du Reflet à Saint-Berthevin. Ce sera le 22 février à 17h avec le spectacle Norman, c'est comme normal à une lettre près. Merci beaucoup Clément.
Merci beaucoup.
L'agité du local sur l'autre radio. Elle est maintenant dans un monde souvent marqué par le stress et les obligations. L'artiste Bolivar nous offre une bouffée d'air frais avec son titre « Je m'en foutisme ».
Ça m'a pris d'un coup pour cette journée. J'ai décidé de m'en foutre de tout. Rien assuré. De quels pantalons sont à la mode large serré. Je vais en mettre un car rien de spécial, ça m'est égal de pas être à l'aise en société. J'ai dit bonne soirée à quelqu'un alors qu'il est 10h du matin. Je m'en contrefiche. Aujourd'hui je vais manger zéro fruits et légumes. Je fais des folies, j'assume, parce qu'aujourd'hui je m'en fous complètement. Je m'en sur je sais pas quoi. Et puis en vrai je m'y connais pas. Ouais je m'en fous de cette bagnole qui klaxonne depuis 10 minutes, parce que le trafic ne va pas vite, ça fait du bruit. Je m'en fous aussi de pas toujours être certain de ce que je suis en train de fabriquer avec ma vie. Rien à carrer. Si à la fin de cette journée il va falloir commencer à m'inquiéter pour des conneries, parce qu'aujourd'hui je m'en fous complètement. Je m'en tape totalement. Je m'en fous complètement.
disparu, on peut plus avoir la paix maintenant.
Vous êtes du quartier ?
Silence. Chaque bruit compte dans le silence. Un oiseau qui s'éveille, une branche qui craque, un chevreuil qui s'enfuit.
Je me demande, et si on se confie mieux à quelqu'un qu'on ne connaît pas bien ?
Et oui, vous savez maintenant quelle séquence prend la suite. C'est celle dont s'empare maintenant Maxime. Il s'agit bien sûr du micro-trottoir de la semaine.
La semaine dernière, on vous a parlé de l'amour et aujourd'hui, on plonge dans un sujet un peu plus sombre, la mort. Pas vraiment la même ambiance, hein. L'introduction sera courte car je vais éviter de faire des blagues, sinon je risque de m'enterrer. Vous avez celle-là, hein ? Bref, Adèle, surnommée la faucheuse, est allée dans les rues de Laval pour recueillir les avis des patients sur la fin de vie.
Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, la question de la fin de la vie ?
Moi, ça m'évoque la façon de traiter les gens qui arrivent vraiment en fin de vie, pour lesquels il n'y a plus rien à faire. Et là, j'estime qu'il faut qu'on soit raisonnable et même plus que raisonnable pour ne pas continuer à les faire souffrir. Et même si je sais que maintenant, il y a plein de choses pour éviter la souffrance. Mais bon, il ne s'agit pas non plus de vouloir garder les gens dans des états et les faire souffrir moralement et psychologiquement.
La fin de la vie, bah, pour moi, c'est quelque chose qui est difficile parce que moi-même qui ai perdu mon papa dans des circonstances très particulières, il a pas mal souffert vers la fin. Je pense que c'est à chacun de choisir. C'est dommage qu'en France, il n'y a pas une loi qui laisse le choix aux personnes d'en finir par rapport à ceux qui souffrent énormément, qui ont des maladies qui sont terribles et puis qui leur font du mal pendant des mois ou des années, quoi.
Retirer la vie à quelqu'un alors qu'il y a peut-être toujours un petit espoir qu'il vive encore.
Parce que quand on vieillit, bah forcément, on perd des proches qui... Et donc la fin de vie, ça fait partie de la vie.
La question de l'euthanasie, est-ce que vous en avez déjà parlé à table pendant un dîner de famille ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être découvert dans une œuvre d'art ?
Non, je l'ai découvert il y a quelques années de ça quand on parlait à l'époque, je crois que c'est Lambert, donc Christophe je crois. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à connaître ça. Il y a déjà peut-être 15 ans de ça à peu près qu'ils en parlaient à la télévision. Et c'est vrai que bah, pour moi c'était un peu tabou à l'époque parce que bon, j'avais pas autant de recul et autant de maturité.
Non, mais juste dans des discussions comme ça ou sur internet.
Bah pas forcément, enfin pour les animaux oui, mais les humains pas forcément.
Alors, une œuvre culturelle, je crois que j'avais vu une pièce de théâtre. Très intéressant. Bon, ça restait soft et voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'on devrait, quand même en voir plus souvent pour faire réfléchir un peu les gens sur le problème.
Est-ce que ça fait peur de vivre dans une société qui aurait légalisé l'euthanasie ?
Non, pas du tout. Moi, je suis pour l'euthanasie, oui. Quand il n'y a plus rien à faire, il faut laisser partir les gens. Pour moi, c'est leur éviter des souffrances. Ça ne sert à rien l'acharnement thérapeutique.
Ça fait peur parce qu'on peut nous faire croire qu'il n'y a aucune chance et du coup se laisser tenter bah, de vouloir se faire euthanasier alors que finalement bah, c'est peut-être juste un moyen de liquider la population, etc.
Ça peut être bien, tout dépend comment c'est fait parce qu'il ne s'agit pas non plus de vouloir piquer tout le monde et se débarrasser de tout le monde. Hein. Mais non, mais je pense qu'à certains moments, l'euthanasie est quand même importante.
Oui, parce que du coup c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Avant, bah, on en avait plus peur parce qu'on ne connaissait pas trop les tenants et les aboutissants. Et puis maintenant qu'on sait un petit peu mieux la définition et que le corps médical nous en parle, les lois aussi au point de vue du gouvernement. Et je pense qu'il y a des associations aussi qui luttent contre ça depuis bientôt 20 ou 10 ans, enfin un truc comme ça. Et je pense que ouais, c'est important qu'on sache ce que c'est et comment on pourrait le normaliser, si je puis dire. Parce que bon, moi je sais que pour ma part, je voudrais pas finir comme mon papa avec de la souffrance. Hein. Moi je voudrais qu'on me donne ce qu'il faut pour partir plus vite et puis de ne pas rester dans un endroit sordide et être seul. Quoi. Au contraire, choisir sa mort et puis le lieu, quoi, tant qu'à faire.
Est-ce que la mort, c'est quelque chose d'effrayant ?
Pour moi, non. On est sur Terre, on vit et on part.
Oui, quand même. C'est la fin de vie. Moi aussi, ça me fait peur. Parce que, bah, y a plus de vie, quoi. C'est fini. Ça passe vite, en plus.
Me faire peur... Bon, je pense qu'à certains moments, oui, quand on vit seul, il y a des moments où on se dit « Oh là là, pourvu qu'il m'arrive rien aujourd'hui ». Enfin bon, mais de toute façon, on sera tous pareils, on y passera tous. Et il faut rester lucide quand même.
Et voilà, après avoir creusé le sujet de la mort, on arrive à la fin de ce micro-trottoir. On a entendu des avis assez variés, entre ceux qui préfèrent ignorer le sujet et ceux qui sont prêts à en parler ouvertement. Pas de panique, la fin de vie c'est un sujet sérieux, mais ça ne veut pas dire qu'on doit toujours le rendre triste. En tout cas, merci à Adèle pour ce micro-trottoir. Allez, on se retrouve bientôt et cette fois-ci, promis, on parlera d'un sujet un peu plus joyeux. Normalement.
P. pesticides, santé publique. Sommes-nous vraiment protégés? C'est la question que pose la campagne Secret Toxique. Ici, il y en a actuellement, elle est actuellement en tournée en France pour alerter sur les graves défaillances du système d'homologation des pesticides. Alors, son objectif est d'exiger un vrai contrôle des produits avant leur mise sur le marché et mobiliser citoyens et décideurs pour faire bouger les lignes. Cette tournée fait étape en Mayenne du 25 février au 13 mars avec plusieurs projections, débats dans le département. Pour en parler, j'échange avec Aurélie Germain, chargée de mobilisation pour Secret Toxique.
Secret Toxique est une ONG qui est née suite à une étude qui a été réalisée par Gilles-Éric Serralini et Gérald Gingère, qui mettait en avant le fait que dans les produits de biocontrôle qu'ils avaient testés, ils ont retrouvé tout un tas de produits qui n'étaient pas sur l'étiquette, type de métaux lourds, de l'arsenic, des choses a priori très dangereuses. Voilà, donc suite à ce constat, les trois associations principales, qui sont Génération Future, Campagne Glyphosate et Nature et Progrès, se sont rassemblées pour créer l'ONG Secret Toxique et essayer de comprendre comment ces produits pouvaient se retrouver sur le marché et que n'importe quel consommateur, avait accès à des produits très dangereux. Voilà, la coalition est née comme ça.
Et alors, les études de l'INSERM et de l'INRAE montrent aussi que les pesticides autorisés ont des effets de toute façon néfastes sur la santé et l'environnement. Alors, quels sont les principaux peut-être dysfonctionnements que vous avez constatés dans le processus d'homologation ?
En fait, la difficulté du processus d'homologation, il y a deux niveaux. Il y a un niveau européen. À ce niveau européen, le processus homologue ce qui est appelé la molécule dite active, donc la molécule a priori principale. Et après, au niveau des pays européens, chaque agence de santé de chaque pays va autoriser, elle, la mise sur le marché des produits tels qu'ils sont commercialisés. Sauf qu'en fait, à aucun moment, le produit commercialisé n'est testé dans sa globalité. Il y a un secret industriel autour de ce produit, donc on n'a jamais accès à cette formulation, en fait.
Alors depuis 2023, votre équipe organise un tour de France pour informer justement et sensibiliser. Vous vous arrêtez donc en Mayenne du 25 février au 13 mars. Quels sont peut-être les objectifs et puis quelles actions vous menez dans le département de la Mayenne ?
Alors, ça fait un an et demi maintenant qu'on sillonne la France pour informer le grand public sur cette problématique. On a réalisé un film avec lequel on organise des projections de débat. Donc, à ce jour, c'est plus de 30 départements qui ont été visités, plus de 130 projections organisées. Et l'enjeu est bien d'informer le grand public sur cette problématique parce que pour nous, il y a un vrai scandale sanitaire qui est caché à la population. Et donc, du coup, on arrive en Mayenne, là, sur du 25 février au 13 mars. On organise 5 projections. Une à Bourneuf-la-Forêt, une à Laval, une à Saint-Pierre-des-Nîmes, une à Mayenne et une à Château-Gontier. On est très contents de l'écho qu'on a pu avoir avec les organisateurs locaux. Notre objectif, c'est bien sûr de s'appuyer sur des gens qui travaillent sur cette problématique-là toute l'année sur leur territoire. Donc on s'associe aux associations locales, pour réussir à monter ces projets et puis qu'on ait aussi des intervenants suite aux projections de débat qui soient vraiment en lien avec le territoire, qu'on ne soit pas décorrélés des questions locales.
Justement, il y a différents intervenants locaux et vous donnez notamment également la parole à des victimes de pesticides. Alors peut-être quels témoignages vous ont le plus marqué et en quoi ces récits sont essentiels en fait pour faire bouger les choses aujourd'hui ?
Alors oui, on travaille beaucoup avec le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, qui est une association très très importante parce que eux ils agissent sur la reconnaissance des maladies professionnelles des agriculteurs qui bien sûr sont les premières victimes. Il faut pas l'oublier. Cette problématique des pesticides touche tout le monde, toute la population. On y est tous forcément confrontés, mais en premier lieu c'est forcément eux qui pour l'instant on paye le plus lourd tribut parce qu'ils se retrouvent avec des gros soucis de santé. Et puis après ils ont tout un parcours du combattant pour faire reconnaître leur maladie en maladie professionnelle. Et puis voir aussi avec la MSA par rapport à leur taux d'invalidité qui va être validé. Donc nous, on travaille avec eux parce qu'ils sont très sensibilisés à cette question. Et puis le fait d'avoir des témoignages d'agriculteurs qui expliquent ce qu'est leur maladie, parce que sous le mot cancer se cache tout un tas de réalités du quotidien qui sont très lourdes à porter et pour les malades et pour les familles qui accompagnent. Ça nous semble très important pour nous, en tout cas, que ces gens puissent avoir la parole, puissent s'exprimer et faire prendre conscience au public des enjeux. Pour beaucoup, ils ont été contaminés parce qu'on leur a dit, on leur a expliqué toute leur vie que ces produits étaient inoffensifs. Donc là, il y a un réel problème d'information et peut-être autre chose encore.
Et donc, en plus de ces projections destinées à créer de l'échange avec le citoyen, il y a aussi un livre que vous avez publié destiné à sensibiliser finalement d'une autre manière sur ces thématiques.
Bien sûr, donc il y a un livre, comme vous l'avez indiqué, qui permet d'expliquer un petit peu aussi toute la démarche par rapport à cette problématique qui remonte bien sûr de plus loin avec le glyphosate au départ qui avait été ciblé. Le livre permet de retraiter toute la question des pesticides dans son ensemble et fait aussi un parallèle avec le scandale de l'amiante. Parce qu'on est bien sur des scandales sanitaires qui se ressemblent. Et puis on a édité une BD, une bande dessinée qui permet en fait de traiter le sujet, on va dire, de manière un peu plus simple, mais qui est assez complète parce qu'à l'intérieur il y a des flashcodes qui renvoient vers des études et des écrits plus complexes si les gens veulent creuser le sujet. Et ça permet bien d'avoir un support qui est accessible à tous. Et c'est bien l'enjeu, c'est bien de faire comprendre un problème qui a l'air assez complexe, parce qu'on s'est attelé à nous le rendre complexe, j'ai envie de dire. Et en fait, cette BD permet de comprendre les choses de manière assez simple. Elle sera bien sûr accessible lors des projections, mais elle est aussi accessible sur le site Eloasso, où chacun peut se la procurer.
Et en tout cas, merci Aurélie d'avoir été avec nous. Je rappelle les différentes dates sur lesquelles on pourra vous retrouver en Mayenne, donc le 25 février au Bourgneuf-la-Forêt, le 4 mars à Laval, le 6 mars à Saint-Pierre-des-Nils, le 11 mars à Mayenne et le 13 mars à Château-Gontier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sans doute sur un site internet et puis les réseaux sociaux, j'imagine.
Oui, bien sûr, Secret Toxique, le site internet, les réseaux sociaux. Merci à vous de vous être intéressé à cette problématique.
Merci Aurélie. Alors c'est un moment que vous attendez évidemment dans cette émission, il s'agit de la chronique juridique de Priscilla Mignard. Priscilla, vous êtes à mes côtés aujourd'hui, vous vous battez un petit peu avec le micro, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
C'est le micro qui se bat avec moi. Oui, chère Margot, chers auditeurs, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important. Non, ce n'est pas le caractère équivoque du siphon à crème chantilly, bande d'obsédés va. Mais il s'agit de la maltraitance des enfants. Et maintenant que je dis ça, je me rends compte que de lier les deux sujets, c'était vraiment audacieux. oui, eh bien, c'est un sujet qui ne sera peut-être pas aussi divertissant que mes chroniques habituelles, mais il est essentiel. Et oui, aujourd'hui, le clown est triste, comme un jour sans Éric Antoine à l'antenne de M6. Priscilla, il n'y a pas une erreur dans ton sujet, parce que quand je suis réveillée à 2h35 du mat par mon futur cotisant retraite qui me dit... Mon doudou, il m'a parlé dans la nuit. Il m'a dit de venir te chanter la chanson Baby Shark. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Pourquoi tu saignes du nez? Bah, franchement, j'ai l'impression que la vraie polémique, c'est plutôt la maltraitance des parents par les enfants. Oui, je sais. Parfois, ces petits démons nous prennent la tête quand dans une vidéo d'Al-Qaïda. Mais comme dirait mon cousin Germain, bah oui, Germain, c'est aussi son prénom. Mes deux enfants, c'est le centre de ma vie. Dédicace à Regret et Coup d'un soir. Oui, vous remarquerez qu'ils sont assez originaux concernant les prénoms dans cette famille. Quel que soit le prénom que vous donnerez à votre enfant, vous devez le respecter en tant que personne. Oui, ça paraît aussi évident que de ne pas nommer président du Conseil constitutionnel quelqu'un qui a des casseroles au cul, ou pas.
Mais c'est quoi précisément la maltraitance sur enfant ?
Il s'agit de la maltraitance commise sur un mineur, par ses parents ou par des personnes de son entourage, membres de la famille, voisins, amis. On peut résumer la catégorie des auteurs par l'expression « gros bâtard », comme ça c'est plus clair. Cette maltraitance peut être caractérisée par des violences physiques, morsures, brûlures, étranglements, coups. Il n'y a pas de « ah c'est bon, c'est juste une fessée, c'est pas grave, tout le monde le fait ». J'aimerais bien voir ta tronche si demain quelqu'un te fout une grosse mandale dans la rue et te lance pendant que tu es sur le sol à compter tes dents sur les pavés. Oh, c'est bon, c'était juste une claque. Bah là, c'est pareil. Non, en fait, c'est pire, parce qu'il s'agit d'enfants. De même, gifler un enfant, même si c'est pas le tien, c'est grave et c'est interdit. Pas de peau, P-A-U. Même si après coup, tu es devenu Premier ministre. Souvenir, souvenir. Mais ce n'est pas tout. Car la maltraitance, c'est comme la vérité dans la bouche de Donald Trump, elle a de nombreuses variantes. Il y a aussi les violences sexuelles, attouchements, viols, ou par exemple l'excision. Eh oui, parce que l'excision, c'est pas une garantie contre l'infidélité féminine pour assurer des hommes qui manquent de couilles. Non, c'est une mutilation. Quant aux scandales sexuels de violences sur des enfants, je pense qu'on est beaucoup en avoir plein le cul, hein. Au nombre des violences faites aux enfants, on oublie trop souvent les violences psychologiques. Intimidation, brimades, menaces, éventuellement liées au genre ou à l'appartenance à la communauté LGBTQIA+. Et oui, il y a encore des analphabètes qui ne comprennent pas cet acronyme. Anachronisme, justement. Dyslexie, sélective aussi. De même, jeune auditorice, si ton parent te dit que d'être une fille, c'est aussi utile qu'une Rachida Dati dans un théâtre, bah ça aussi, c'est de la maltraitance.
Alors, comment lutter contre ce fléau, Priscilla ?
Toute personne, mineure ou majeure, témoin d'un acte de maltraitance envers un enfant ou soupçonnant un enfant d'être en danger doit signaler les faits. Il peut s'agir d'un particulier ou d'un professionnel, assistante sociale, médecin, premier ministre. Le procureur de la République peut aussi lancer une enquête à la suite du signalement. Et si un adulte ou un autre enfant imagine qu'il peut jouer avec toi à Jean-Marc et Jeff Panaclock, il doit être condamné. Si tu es victime, cher auditoriste, tu peux en parler autour de toi à un adulte de confiance. À l'école, par exemple, si ton école, c'est pas Notre-Dame de Bétarame, bien sûr. Ou appeler le 119 Enfants sans danger. 119 Enfants sans danger, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tu vois, c'est encore plus disponible que le cerveau d'un téléspectateur de C8. Pour signaler ta situation, il y a même un chat et un signe en langue des signes, mais sans Louane qui chante du sardou. On va pas rajouter la torture à la maltraitance, on n'est pas chez Hanouna non plus. Oui, double taquet à C8, ils vont bientôt fermer, je suis vraiment pas fair play. Jeune auditoriste, même si tes parents sont impliqués, en tant que victime, tu peux déposer une plainte pour signaler à la justice les faits dont tu as été victime, pour que ça s'arrête et pour qu'on te protège. Pour cela, un Avenger, aussi appelé juge des enfants, peut notamment décider d'une mesure de placement dans un foyer ou une famille d'accueil dans les cas les plus graves. Et un autre juge, celui du tribunal correctionnel, pourra condamner celui ou celle qui t'a fait du mal.
Comment détecter un cas de maltraitance ?
Pour les adultes, qui souffrent encore trop souvent du syndrome Gilbert Montagnier, j'ai rien vu ! Voilà notamment comment déceler une maltraitance sur un enfant. Tout d'abord et tout simplement, la présence régulière de bleus, fractures inexpliquées, perte de poids, la crainte de rentrer à la maison ou d'aller à l'école, l'angoisse, l'absentéisme inexpliqué, l'agressivité ou la tristesse permanente. Bon, je sais, cette description, ça correspond à 90% des participants de télé-réalité, mais sûrement qu'on aurait dû s'intéresser à eux enfants. On aurait eu des ingénieurs au lieu d'ingénus, des Curie et des Nobel au lieu de Jackie et Michel. Ensuite, on peut constater chez les enfants maltraités des signes de négligence. Hygiène douteuse, vêtements inappropriés, manque de sommeil, non-scolarisation ou encore présence régulière dans la rue. Bon, si tu es en première L, option troubadour dans un lycée de cracheurs de feu, c'est vrai que ta maltraitance peut passer inaperçue du coup. Enfin, il y a les signes qui laissent suspecter un abus sexuel. Des démangeaisons ou plaies des organes génitaux, des difficultés à marcher ou rester assis, la demande d'un test de grossesse ou d'IST. Ces signes sont associés à des comportements tels que le mutisme, l'inhibition, des difficultés d'attention ou encore des discours à connotation sexuelle. Là, j'ai pas de vanne. Pour conclure, chère auditrice junior ou plus âgée, sache qu'un enfant n'est jamais responsable des maltraitances ou des négligences qu'il subit. Mais certains te feront croire que c'est ta faute ou que c'est normal ce qu'on te fait et que c'est un secret dont il ne faut pas parler. Mais ton super pouvoir, c'est ta voix. Même si parfois elle est nasillarde ou chelou parce que depuis que tu as 13 ans, tu enchaînes les graves et les aigus. Mais t'inquiète, ça c'est comme le quinquennat de Macron, ça va passer. Alors exprime-toi et fais taire les pères fouettards, ils seront prévenus.
Merci beaucoup Priscilla, merci beaucoup pour cette chronique essentielle, merci beaucoup. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Clément Thirion d'avoir été à notre micro, merci à Aurélie Germain, merci à toi Maxime, et merci encore une fois à vous Priscilla. Qu'est-ce qu'on écoute ensuite sur l'autre radio, Maxime ?
La soirée commence à 19h avec l'émission Gold Suit Theory. On retrouve Yoko et Mout qui ont pour ambition de nous faire découvrir Standard et autres pépites de la soul music.
Et ensuite,
on rentre dans le monde du jazz avec Old Blue à 21h.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. Nous serons avec François Marot, co-président du festival Le Foin de la Rue, pour un portrait du festival et un point sur la programmation complète, puisque oui, les tout premiers noms seront annoncés aujourd'hui à 17h. D'ici là, avancez à votre rythme, sans courir après le temps, chaque instant à sa place. Et oui, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Et puis aussi, continuez ensemble, s'il vous plaît, à faire le bien. Thank you.
Bon, bah, c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.